J'aimerais parler ce matin sur la traversée du désert. Nous passons tous par des temps difficiles, des fois des temps de désert où c'est aride, il semble qu'il n'y a pas d'eau, rien pour se désaltérer. En plus, il fait chaud dans le désert. Les températures peuvent être étouffantes, 50 degrés la journée, mais ça descend très froid la nuit. Il n'y a pas d'eau. Les paysages sont assez monotones et quelquefois, nous traversons des zones arides. Et dans notre vie, il y a même des fois des tempêtes de sable qui viennent à souffler et puis c'est des moments désagréables. J'aimerais voir avec vous ce matin comment le peuple d'Israël a traversé le désert avec trois étapes. Alors on va peut-être lire ce texte d'abord, Exode chapitre 16 verset 1, puis je vais vous montrer les trois étapes. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent : Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. L'Éternel dit à Moïse, « Voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain, du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour après jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve. » Et que je vois s'il marche ou non selon ma loi. Le sixième jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour après jour. Amen. Le peuple, quand il est sorti d'Égypte, on peut dire qu'ils avaient une grande joie. Ils sont sortis avec un esprit de victoire et de fête. Et d'ailleurs, la Bible dit que lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge et que tous les Égyptiens sont morts, c'est Moïse qui a chanté un cantique à la gloire de l'Éternel. Il y a tout un chapitre qui représente ce cantique. Et à ce moment-là, la Bible dit que les femmes prenaient les tambourins et se sont mis à faire des danses. C'était l'effervescence. C'était la joie. Mais ça a été une joie de courte durée, puisqu'après, il a fallu reprendre la marche et le désert, les difficultés. Et en fait, c'est ce qui se passe aussi pour nous, c'est que parfois, dans les temps de désert, notre foi est éprouvée. Parce que c'est facile de louer le Seigneur et de le glorifier quand nous avons obtenu une belle bénédiction, gloire à Dieu. Alors là, ça vient presque spontanément et ça se fait tout naturellement, comme le peuple après la mer Rouge. Mais lorsque l'on est maintenant dans le désert, lorsque les vents sont contraires, lorsque les difficultés sont là, on va voir que ce n'est pas tellement des louanges qui viennent à l'esprit du peuple, mais plutôt des murmures, des grincements de dents, des regrets du passé, et cela doit nous interpeller aussi pour nous montrer quelle doit être notre attitude dans l'épreuve. Parce que Dieu permet des temps d'épreuve, des temps de désert comme cela, et en fait c'est très inconfortable pour nous, mais c'est pour nous faire grandir, c'est pour éprouver notre foi et nous permettre de mieux comprendre certains paramètres. En fait, naturellement, nous n'apprenons pas les choses de Dieu, il nous faut être placés dans certains contextes où là, notre cœur va être réceptif. 1 Pierre chapitre 1 dit ceci au verset 6. C'est là ce qui fait votre joie, dit Pierre, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par les diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Qu'est-ce que dit Pierre ici ? D'abord que Dieu permet les épreuves, que c'est dans son plan, que c'est même quelque chose de positif, car il va en déboucher la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. L'épreuve n'est donc pas là pour nous détruire, elle n'est pas là pour nous abaisser, peut-être nous décourager, elle est là pour faire sortir en nous, en fait, des éléments de louange, de gloire et d'honneur, et de nous apprendre à ne pas dépendre des temps et des circonstances, mais à continuer à louer Dieu, quoi qu'il arrive, à mettre notre foi en Dieu. Alors on va être éprouvé dans la foi. Le peuple était éprouvé dans la foi. Est-ce que Dieu allait pourvoir? Est-ce que Dieu allait nous donner de l'eau? Est-ce que Dieu allait nous donner du pain? Est-ce que Dieu allait nous donner de la nourriture nécessaire pour le logement, pour les déplacements? Tout cela, eh bien, c'était l'épreuve de la foi. C'est très facile de dire qu'on a la foi, mais c'est beaucoup plus difficile quand les moments sont... Il y a des obstacles, il y a toutes sortes d'éléments négatifs, eh bien, de continuer à croire malgré ces éléments. Et ça va être l'expérience du peuple. Alors, comment réagit le peuple dans ce temps de désert? On l'a lu, c'est au verset 2. L'assemblée des enfants d'Israël, donc les croyants, ils venaient de sortir de la mer Rouge avec ces temps de louange. Tout le chapitre 15, d'ailleurs, c'est ce fameux cantique de Moïse. Et déjà au chapitre 16, bien, c'est les murmures. C'est les murmures. Ils murmurent contre Moïse et contre Aaron. Voilà des croyants qui, eh bien, face à la difficulté, la première attitude, elle est négative, elle est face à l'obstacle, c'est bien le doute, c'est le retour en arrière. Et ça se voit aussi dans le Nouveau Testament lorsque les chrétiens de Corinthe, par exemple, parlaient de Paul. Ici, il est question de Moïse et Aaron, ce sont donc les conducteurs spirituels du peuple. Eh bien, dans le Nouveau Testament, vous avez les mêmes exemples, dans l'Église cette fois-ci, avec des chrétiens de Corinthe qui disaient de Paul, oui, ses lettres sont fortes, mais quand il est présent parmi nous, il est faible et sa parole est méprisable. Ce n'est pas très gentil de parler comme ça, mais c'est comme ça que parlaient certains Corinthiens. À propos de Paul, qui est quand même un ministère avec l'onction reconnue que Dieu a suscité pour faire une œuvre extraordinaire. C'est pourquoi on voit même parmi les croyants bien cette attitude de murmure, cette attitude de contestation qui ne fait pas la gloire de Dieu. Alors Paul écrit un verset pour cela, c'est dans Philippiens 2, et au verset 14, il dit « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, comme les chrétiens de Toulouse-Ouest. » Ça, c'est moi qui rajoute. Alléluia. Sans murmure ni hésitation. Hein, parce que les murmures, c'est la première chose qui nous vient à l'esprit. Mais Paul dit non, on doit être libéré de cette mentalité de jugement, de critique, des murmures. Alors bien sûr, quand il y a une difficulté, on peut en parler, mais on en parle avec amour et on cherche des solutions. Bon, ce n'était pas l'état d'esprit du peuple. Deuxième élément, c'est le regret du passé. Ils disent, nous nous souvenions qu'en Égypte, nous avions de la viande. Il y avait des bons petits pains briochés, cuits au four. Ils sentaient presque l'odeur des petits pains. Il y avait du manioc. Il y avait des bons petits plats chili con carne. Il y avait tout ce qui plaît au palais. Et voilà que maintenant, dans le désert, ils n'ont plus rien. Mais remarquez ceci, ils se rappellent des bonnes choses qu'il y avait. Ah, c'était bon. Mais ils oublient la réalité de l'esclavage. Parce qu'ils étaient tenus de faire des travaux, parce qu'ils avaient des coups de fouet, ils avaient des ordres qui leur imposaient de faire des briques et de construire des demeures pour les Égyptiens. Et tout cela, qui était vraiment pesant, ils n'en parlent pas. Mais ils se rappellent les quelques éléments positifs. En fait, c'est la relecture du passé, c'est le regret du passé. C'est quand on pense que c'était mieux avant. Mais non, frères et sœurs. On a tous dans nos voitures un rétroviseur pour regarder en arrière. Mais si vous allez sur la rocade et que vous conduisez uniquement en regardant dans le rétroviseur, ça ne manquera pas de faire un accident. Si nous regardons constamment le passé, ça ne va pas fonctionner. Nous n'avancerons pas. Eh bien, ce peuple-là, il regarde le passé avec un œil positif alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Alors, qu'est-ce que Paul dit de notre passé ? Paul dit, vous étiez morts dans les péchés dans lesquels vous étiez. Voilà ce que c'était. Vous étiez morts par vos offenses, par les péchés dans lesquels vous viviez. Paul dit, vous étiez des enfants de colère. Ça, c'était avant de connaître Christ. Voilà d'où nous venons. Paul dit, vous étiez des vases prêts pour la perdition. Nous étions sur un chemin de mort. Quelqu'un a dit, les chrétiens ont la tête mal vissée, ils regardent toujours en arrière. Il ne faudrait pas que nous soyons comme cela, mais que nous puissions regarder devant et dire « Oui, le Seigneur est bon, Il a été fidèle. Oui, c'est vrai, il a pourvu. Et nous croyons qu'il va encore faire de grandes et belles choses. Mais nous voulons conserver cette bonne vision, comme Paul nous l'enseigne, de courir en regardant vers le but, non pas vers le passé. On peut toujours se souvenir des bonnes choses. Mais toutes les difficultés, et qu'on regrette après qu'on a quitté pour le service, pour le Seigneur, eh bien tout cela, ce sont des pièges pour nous tenir là où nous sommes. Et puis, troisième élément dans ce passage, il développe une fausse idée de Dieu. Ils disent au verset 3, « Que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte ?» Comme si Dieu prenait plaisir à les faire mourir dans le désert. Vous voyez, on retrouve cette mentalité dans l'histoire du fils prodigue de Jésus, lorsqu'il raconte qu'un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Donne-moi ma part d'héritage. » Et le père donc partagea ses biens, et le jeune partit à l'étranger, dans un pays très loin de la maison du père, pour dépenser son argent avec des amis et dans la débauche. Peu de temps après, il y a une famine qui survient, il n'a pas d'argent, il ne peut pas s'en sortir, alors il va garder des cochons. Et là, dans son bourbier, voyant que les cochons mangeaient les carouges et que lui avait faim, il se dit, « Mais j'aimerais mieux retourner chez mon père en me rappelant toutes les bénédictions qu'il y avait chez mon père. » C'est l'image de la maison de Dieu. Et il se repent en disant, « Ben, je vais demander pardon à mon père et je retournerai. » Et à peine fait-il cette démarche que le père court le prendre dans ses bras, le revêt d'une tunique, lui met un anneau à son doigt et des souliers aux pieds. Il y a une fête qui est organisée avec un veau gras qui est offert. Et l'autre fils, donc c'est le fils aîné, qui était dans les champs, entend les réjouissances à la maison. Et lorsqu'il arrive, il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et on lui dit, mais ton frère, qui était parti avec l'argent, est revenu. Et lui, il n'a pas dans son cœur des sentiments aimables pour son frère, mais pas non plus pour son père. Parce que son père sort et l'accueille pour le faire rentrer. Mais il dit ceci, c'est au verset 29 de Luc 15. Il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Et puis il juge son frère, « Lui qui est allé avec des prostituées, toi tu offres le chevreau. » Et il juge à la fois son frère et il juge son père. Et son père, c'est l'image de Dieu. Et on voit que cet homme, qui est resté pourtant dans la maison, n'a pas compris l'amour de Dieu. Parce que le père lui dit, « Mais toi, tu étais là tous les jours avec moi, tu peux profiter de tout ce qui est dans ma maison. » Ça veut dire que Dieu l'aime, que Dieu lui fait grâce, mais que ce croyant-là, il vit quand même en considérant que Dieu est un maître méchant, qui lui veut du mal, et qu'à chaque fois qu'il y a un problème, c'est à cause de Dieu. J'entendais cette histoire à la radio d'un homme qui voulait se faire plaisir, et c'était un dimanche matin, et il est passé devant une boulangerie et il s'est acheté deux gâteaux des religieuses pour les manger, mais comme il y avait la messe, il s'est dit, mais je les mangerai après la messe. Donc il est venu avec ses deux religieuses dans un sachet à la messe. Et puis pendant le temps des chants, eh bien, le prêtre a invité tout le monde à se mettre debout. Et lui, il a posé ses deux religieuses sur sa chaise derrière. Et puis le chant est fini, il a invité les gens à s'asseoir et paf, il s'est assis sur les deux religieuses. Et la pensée qu'il a eue, c'est, eh bien, le Seigneur m'a puni. Voilà. Alors, voyez dans quel état d'esprit certains vivent en se disant, ben, le Seigneur nous veut du mal, il veut nous punir. Alors lui, il voulait se faire ce petit plaisir de manger ses gâteaux, mais il dit, ben, le Seigneur m'a puni. Et à chaque fois qu'il y a un problème, il y en a qui pensent, ben, le Seigneur m'a puni. Voilà. Alors que pas du tout. Dieu n'est pas un maître qui cherche à nous punir constamment, mais c'est un Dieu d'amour. Ce fils aîné ne l'a pas compris, et certains imaginent que Dieu leur veut du mal, qu'il aime les faire souffrir, et c'est faux. Et puis ils ont une idée fausse des conducteurs, puisqu'ils disent à Moïse et Aaron, « Vous nous emmenez mourir au désert », comme si Moïse et Aaron voulaient les faire mourir, tout ce peuple, au désert, alors qu'ils sont venus pour les libérer de l'esclavage et les amener dans le pays de Canaan. C'est vrai que Moïse et Aaron avaient des failles, ils n'étaient pas meilleurs que les autres, mais Dieu les avait choisis pour ce service, ce ministère. Il ne faut pas oublier que Moïse avait été en formation 40 années dans le désert auprès de Jéthro pour pouvoir conduire le peuple. Et puis, Dieu intervient en disant, bien, j'ai entendu les murmures de ce peuple, on va lui donner la manne. Et si on lit dans le Nouveau Testament, dans Jean chapitre 6 et au verset 48, on verra que la véritable manne, c'est Jésus. Il dit, je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Jésus dit, la véritable manne, ce n'est pas le pain physique, terrestre, c'est le pain spirituel, c'est Jésus lui-même, le pain de vie. Dieu a nourri son peuple dans le désert, la manne a duré un temps, mais maintenant il y a une autre nourriture, c'est la nourriture de Dieu, c'est Jésus qui va offrir sa vie pour le monde. Ailleurs, Jésus dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus, c'est aussi la parole de Dieu. Cette nourriture, c'est Christ. Il est venu pour nous donner la vie, il est venu pour nourrir notre âme et nous donner cette vie d'abondance. La vie de Dieu, c'est plus qu'exister, parce que la nourriture de cette terre, tout passera. Après, c'est la mort et c'est l'éternité. Mais Jésus descend du ciel, le pain de vie, donne la vie éternelle, et vous pouvez le recevoir par la foi. Alors, le peuple ne réalisait pas cette chose, cette bénédiction, c'est que non seulement ils avaient de la nourriture, mais cette manne, c'était une image déjà du Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui donne sa vie pour le monde. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, un peu plus loin, Jésus dit, « Si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. » Et ça, c'était déjà une image de la Sainte Cène, c'est-à-dire le pain et le vin que nous prenons le dimanche, qui spirituellement bien signifie nous nous nourrissons de la présence de Jésus. Bien sûr, c'est spirituel. Jésus est là en esprit, mais quand nous prenons le pain et le vin, eh bien, nous, en même temps, nous sommes en communion avec Christ et nous recevons sa vie. Un petit détail avant de passer au point suivant, c'est Dieu avait dit, le sixième jour, je mettrai le double portion de manne, parce que le septième jour, vous allez vous reposer. Chaque jour, donc, ils avaient leur portion. Arrivé au sixième jour, c'est-à-dire au vendredi, il y avait double portion. Et le samedi, le jour du sabbat, eh bien, c'était repos, ils n'avaient pas besoin de sortir chercher la manne. Bien que Dieu ait bien expliqué les ordres, il y a toujours quand même quelques-uns du peuple qui sont allés sur le septième jour en désobéissant à ce que Dieu disait et ils sont allés chercher la manne, mais il n'y en avait pas. Ceci pour montrer que même parmi les croyants, il y en a qui sont attachés à une certaine indépendance, ne cherchant pas à faire vraiment la volonté de Dieu. Ils ont dit, bien nous allons faire comme nous voulons. Mais ils n'ont pas été bénis dans leur action. Et Dieu, lui, ce qui lui plaît, c'est l'obéissance. Deuxième étape, donc, c'est le rocher. C'est dans Exode 17, au verset 1er. Vous trouverez ce récit dans les versets 1 à 7. Ici, après avoir été nourri de la manne et des cailles, le peuple était pressé par la soif. Le désert, bien sûr, il n'y a pas de source d'eau, il n'y a pas de l'eau courante comme nous en avons, donc rapidement ils avaient l'impression de mourir. Mais Dieu est capable de produire de l'eau dans le désert. Il y a quelques temps, on a reçu un frère qui s'appelle Elias et qui nous a témoigné que lorsqu'il est devenu chrétien, alors qu'il était musulman, il est devenu chrétien, il a été rejeté par sa famille et il a dû fuir. Et même son entourage, ses amis voulaient le tuer. Et il a dû fuir. Et il a raconté qu'il il a dû traverser tout le désert. Il marchait la nuit et puis le jour, il se cachait sous le sable. Mais il nous a dit qu'il n'avait qu'une gourde d'eau. Et c'est certain qu'avec une gourde d'eau, vous ne pouvez pas tenir longtemps. Eh bien, par la grâce de Dieu, il a pu boire, il a pu boire, il a pu boire. Et il a pu traverser tout le désert et la bouteille ne s'est pas vidée. Dieu a pourvu à l'eau pendant sa traversée du désert. Sinon, il serait mort desséché dans le désert. Ce n'est pas possible de vivre sans eau dans le désert. Eh bien, Dieu a fait ce miracle, si bien qu'il a pu aller de l'autre côté et puis rejoindre la France et continuer son parcours. La réaction du peuple quand il manque d'eau, c'est à nouveau les murmures, Alors vous verrez dans cette partie de l'Exode, le peuple murmure constamment. À chaque fois, il a des bénédictions, à chaque fois, il murmure pour autre chose. Et il cherchait querelle à Moïse en disant « Donne-nous à boire. Pourquoi nous as-tu fait sortir d'Égypte, nous et nos troupeaux ?» Alors Paul dit dans 1 Corinthiens 10:10 « Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux. » Il parle de ce peuple-là dans le désert, « qui périrent par l'exterminateur. Ces choses sont arrivées pour servir d'exemple. » Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Donc ces exemples, à nous, doivent nous servir de leçon pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Certains étaient légers, ils ne comprenaient pas la manière de faire de Dieu, donc ils jugeaient, ils critiquaient, et ils continuaient à dénigrer. Et comme ils ne voulaient pas changer, eh bien, ils ont fait le choix de persévérer dans leur murmure. C'est leur décision. Et on le constate, certains décident ainsi. Mais finalement, si vous aimez vraiment le Seigneur, vous verrez bien que ce n'est pas bon. Et en tout cas, ne soyez pas en communion avec ces personnes. Il y a un avertissement ici. Ne murmurez point. Donc c'est quand même un ordre divin. Non, ne le faites pas comme eux. Car l'ange exterminateur les a détruits. Il y a un avertissement de jugement. Et Moïse, à un moment donné, il était découragé par le peuple. Dans Exode 17, au verset 4, « Que ferai-je à ce peuple ? Encore un peu ?» Et ils me lapideront. Ah, c'est difficile de servir le peuple. C'est difficile de servir les autres en position de responsabilité. Parce que là, vous avez beaucoup de critiques, vous avez beaucoup de jugements. Et puis, les uns disent, il faudrait faire comme ça. Les autres disent, il faudrait faire comme ça. Et Moïse, ben, il doit écouter Dieu et dire, voilà, c'est comme ça qu'il faut aller. Et ce n'est pas facile. Parce que certains se retourneront contre vous, certains peut-être vous trahiront. Et ici, ils disent, ils me lapideront. Ils voulaient le faire mourir. Alors, que faire? Eh bien, Moïse se tourne à chaque fois vers le Seigneur. En fait, on le voit crier à Dieu, prier Dieu. Et il continue à servir parce qu'il n'y a pas de plus grande joie que de servir le Seigneur, même s'il y a aussi des à côté, des contre-coups, des difficultés. Mais il faut se rappeler qui nous sommes. Dans 1 Corinthiens 15, Paul dit « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Vous vous rappelez que les Corinthiens le dénigrait, disait de lui, il est fort dans ses lettres, mais présent, il n'est pas de la même teneur. Mais en réalité, Paul a passé par-dessus et il dit, moi je sais qui je suis, je sais d'où je viens, j'étais un persécuteur de l'Église, Christ m'a racheté, il a fait de moi son enfant, je sais que c'est par la grâce de Dieu et sa grâce n'a pas été vaine. Il se rappelle donc d'où il vient et ce que Dieu a fait de lui. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction. Alors ce n'est pas les autres qui vont décider pour vous ce que vous allez devenir, c'est Dieu. Dieu a son plan pour chacun et il a décidé l'un ce sera ça, l'autre ce sera ça. Et nous pouvons dire, c'est par la grâce de Dieu si nous pouvons faire quelque chose. Mais ne comptez pas ou ne vous laissez pas tourmenter par ce que l'un dit ou ce que l'autre pense. Plutôt, sachez ce que Dieu pense, ce que Dieu dit. Et Paul dit, moi je sais. Je suis ce que je suis, je sais qui je suis apôtre, je sais que Dieu m'a appelé, que j'ai cette fonction, et continuez votre chemin en comptant sur la grâce de Dieu. Donc Moïse, à chaque fois qu'il était découragé, il procédait ainsi. Puis la solution arrive, Dieu dit à Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher. Et le rocher, donc, s'est ouvert et de l'eau a jailli pour abreuver le peuple. Et en fait, ce rocher n'était pas un rocher ordinaire. Car si nous lisons le Nouveau Testament, nous verrons que ce rocher, c'était Christ. Dans 1 Corinthiens 10, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. » Ils ne le réalisaient pas, mais ce rocher, c'était Christ. Et nous voyons que Christ est déjà présent dans l'Ancien Testament et qu'il accompagnait le peuple dans son désert. C'est intéressant ce passage parce qu'il est dit que le rocher a été frappé. Et effectivement, Christ a été frappé aussi à la croix. Ésaïe 53 le dit comme cela, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants, et frappé pour les péchés de son peuple. » C'est le même terme. Le rocher a été frappé, et Jésus a été frappé pour les péchés de son peuple. En fait, qu'est-ce que c'est ici, ce rocher frappé? Bien, c'est l'annonce prophétique que Christ va passer par la croix. Et c'est confirmé par Ésaïe 53 et dans d'autres passages comme le psaume 22 notamment. Il y a une annonce prophétique que Christ sera frappé une fois pour les péchés du peuple. Paul le reprend dans Romains 6, 10, car il est mort en parlant de Jésus, c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il a été frappé donc une fois pour toutes, il est revenu à la vie et c'est pour nous qu'il vit. Et si vous continuez l'histoire, vous verrez qu'à la fin, dans une autre circonstance, Dieu a dit à Moïse de ne pas frapper le rocher, mais de lui parler la deuxième fois qu'il a eu besoin d'eau. Il lui a dit « Tu parles au rocher ». Et Moïse a désobéi, il a frappé à nouveau le rocher. C'est un péché si grave, dit la parole de Dieu, que Dieu lui a dit « Tu n'entreras pas, ni toi, ni Aaron, dans le pays promis ». Ça a été grave, ce péché. Il a frappé deux fois le rocher, alors qu'il fallait le faire qu'une fois. On pourrait dire, à vue humaine, c'est insignifiant, mais quand on sait ce que le rocher représente, ce que Dieu voulait communiquer par là, que le rocher, c'était Christ, que Christ s'est offert une seule fois pour le péché du monde, eh bien, il y a une énorme désobéissance ici de Moïse à l'ordre de Dieu qui lui a coûté l'entrée dans le pays promis. Et la dernière partie, c'est le serpent d'airain. Donc, troisième étape, après la manne qui les a nourris, après le rocher qui les a désaltérés, qui les a abreuvés, il y a le serpent d'airain. Vous le trouvez dans le Nombre, chapitre 21, les versets 4 à 9. Le peuple ici devenait de plus en plus impatient parce que les choses n'avancent pas vite dans le désert. Le chemin est long et difficile. Il y avait beaucoup d'obstacles et ils ne supportaient plus le chemin de Dieu. Par exemple, au verset 5, donc dans Nombre 21, ils disent « Pourquoi nous avez-vous fait monter d'Égypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. » Ils parlent de la manne. Et ici, nous voyons une attitude de l'ingratitude, le croyant ingrat. Parce qu'ils disent « Il n'y a point de pain », mais Dieu, tous les jours, qu'est-ce qu'il donne ? Il donne du pain. C'est la manne. Ils disent, il n'y a point d'eau, mais qu'est-ce que fait Dieu avec le rocher ? Il leur donne de l'eau. Et à chaque fois, il les abreuve. Mais ensuite, ils disent, nous sommes dégoûtés de cette misérable nourriture, mais c'est le pain de Dieu. C'est ce que Dieu veut pour nous, pour son peuple. Et on voit l'ingratitude. Alors, qu'est-ce qui se passe quand notre cœur est devenu dur ? Eh bien, nous devenons ingrats vis-à-vis de Dieu. Et peut-être les chants de louange après la sortie d'Égypte, c'est très loin derrière et que maintenant c'est dur, que maintenant la vie chrétienne c'est dur, que maintenant le service devient difficile et que tout est dur. Eh bien, apprenons à nous réjouir même quand les temps sont difficiles. Et peut-être c'est le cas de quelqu'un où les plaintes et les gémissements dominent, alors qu'en réalité nous devons apprendre que c'est la foi, c'est l'amour et c'est la louange qui domine. Alors, que fait Dieu, voyant son peuple murmurer à nouveau ? Il envoie des serpents brûlants pour les piquer. Et ces serpents leur donnent des piqûres mortelles. Et beaucoup sont en train de mourir. Mais vous savez, le serpent, c'est aussi l'image du péché. Car le péché est entré dans le monde par un serpent. Et Ève a écouté la voix du serpent. Et c'était Satan derrière le serpent. Et plusieurs, donc, étaient en train de mourir. Et le peuple réalise que c'est grave ce qu'ils ont fait, c'est grave de murmurer, c'est grave de parler à tort et à travers, de critiquer, de juger, de critiquer Dieu, de parler mal de Moïse, d'Aaron, c'était des choses mauvaises. Et à ce moment-là, ils regrettent, ils demandent pardon, et c'est bien, ils vont se repentir, et ça va déclencher la bénédiction. Dieu dit à Moïse, bien, tu vas te fabriquer un serpent d'airain. Et quiconque regardera le serpent d'airain qui sera sur une perche, il sera sauvé. C'est ce que Moïse a fait, et le peuple a été sauvé par ce serpent d'airain. Et quand vous lisez le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, vous le retrouvez, quand Jésus explique à Nicodème, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, c'est le fameux serpent d'airain dont nous venons de parler, il faut de même que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, et ne meurt point. Il y a donc un autre serpent, c'est le diable qui a communiqué la mort éternelle par le péché. Il y a un autre serpent d'airain qui existe, c'est Jésus qui va être élevé sur une perche, mais c'est la croix. Et ça, c'est l'image du serpent qui est appliqué à Jésus, parce que ce serpent d'airain, en fait, c'est l'image du sacrifice de Christ. Et c'est un petit peu audacieux d'utiliser l'image du serpent qui est constamment utilisé pour le diable et le péché, le mal, et de l'appliquer à Christ. C'est le seul endroit dans la parole de Dieu où Christ est apparenté à un serpent. Mais pourquoi cela? Eh bien, Paul l'explique, c'est parce que le serpent, l'image du péché, eh bien, Christ a été fait péché pour nous, dit la parole de Dieu. Dans 2 Corinthiens 5, 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Donc ce serpent d'airain, en réalité, eh bien, c'est l'image de Christ qui porte le péché du monde sur lui. À la croix, c'est ce qu'il a fait. Et quiconque porte un regard de foi vers Christ, qui est mort à la croix comme vers le serpent d'airain dans l'Ancien Testament, eh bien, il sera sauvé de la morsure du serpent, lui, Satan, qui est venu pour attirer tous les gens en enfer et les séparer de Dieu. Vous savez, il y a un moment sur la croix, c'est un moment un peu unique, où Jésus s'est tourné vers son Père. Il ne l'a pas appelé mon Père. C'est le seul endroit, d'ailleurs, où Jésus n'appelle pas Dieu son Père, mais il l'appelle mon Dieu. Il dit sur la croix, à un moment donné, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et c'est précisément le moment où il est devenu le serpent d'airain, c'est-à-dire où il a porté le péché du monde sur lui. Et comme il n'y a pas de communion entre le Dieu très saint et le péché, eh bien, il y a eu cette séparation. Et là, en fait, Christ a été jugé à cause de nos péchés. Vous connaissez tous l'utilisation des paratonnerres. Les paratonnerres permettent d'attirer la foudre à eux plutôt qu'elle ne tombe sur une maison ou sur une personne. Les paratonnerres sont mis en hauteur et cela permet d'éviter des malheurs. Eh bien, la croix, c'est une sorte de paratonnerre, c'est-à-dire que Christ a pris sur lui toute la colère de Dieu qui s'est déversée à ce moment-là, alors qu'il portait le péché du monde, mon péché, votre péché, le péché du monde entier a été payé. Là, il a payé la dette et quiconque croit maintenant, quiconque porte ce regard de foi vers Jésus, eh bien, il est pardonné de ses péchés. On va prier un instant parce que peut-être quelqu'un ce matin est dans cette période de désert et vous n'avez aucune nourriture qui rassasie. Mais dans ce monde, il n'y a aucune nourriture qui rassasie vraiment. Alors pourquoi ne pas vous nourrir de la parole de Dieu, du pain de Dieu, de Christ qui est le pain du ciel? Peut-être ce matin, vous sentez qu'aucune eau vraiment ne vous désaltère. Et il n'y a pas d'eau qui désaltère dans ce monde, en tout cas pour l'âme. Alors pourquoi ne pas venir à Jésus qui est le rocher et qui dit « Venez à moi et des fleuves, vous qui avez soif, venez à moi et des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. » Jésus qui donne l'eau vive. Peut-être vous êtes en train de mourir dans votre désert comme ce peuple qui était piqué par les serpents, mais ça c'est l'image du péché, parce que le péché... Mais pourquoi ne pas venir à la croix où Jésus a payé pour effacer nos péchés et nous obtenons le pardon des péchés? Merci encore pour ta grâce, Seigneur. Nous savons que tu es à l'œuvre et que ce que tu as fait pour le peuple, tu les as accompagnés dans tout ce désert, à travers la manne, à travers ce rocher, à travers le serpent d'airain, Seigneur. Tous ces éléments nous parlent de toi, de cette réalité que tu nous accompagnes dans le désert, que tu n'es pas loin et que tu pourvois à tous nos besoins. Merci Seigneur de faire ton œuvre et d'étendre ta main sur chacun. Et nous te prions peut-être sur celui qui passe par ce temps de désert, afin que tu le bénisses et que ta grâce nous accompagne dans le nom de Jésus. Amen.